Et pour débuter cette émission, nous accueillons Elisabeth au 39-21. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Elisabeth et quel âge avez-vous ?
J'appelle d'Allonne et j'ai 56 ans.
Allonne. Où est-ce que c'est Allonne ?
C'est dans la Sarthe.
D'accord. C'est la première fois que c'est un petit village ou c'est une petite
ville ? C'est une grande ville. C'est déjà une grande ville. C'est à côté du Mans. Ouais.
Ah oui, Allonne. Je ne connais pas. Alors c'est la proche banlieue du Mans.
Oui.
D'accord.
Très proche.
Qu'est-ce qui vous amène Elisabeth ?
Alors, c'est un appel. C'est un appel pour mon frère disparu depuis fin janvier. C'est à la suite de cela, j'ai eu par retour, puisque j'avais mis beaucoup de messages sur Facebook, des partages, dont des personnes qui ont connu mon frère. Et donc, j'ai sympathisé avec Vincent Légère et David Légère. Mmh. Et j'ai beaucoup échangé avec eux sur mon frère. Ça m'a fait énormément de bien. Et à la suite de cela, Vincent m'a dit qu'il avait appris de la guitare avec mon frère et du djembé.
Oui.
Et un jour, dans une conversation, je lui ai dit « Est-ce que ça te dérangerait de me faire une chanson ?» Ce qu'il a fait, et deux jours après... J'avais une superbe chanson dont les paroles ont été faites par son frère, David. Et à la suite de ça, j'ai voulu les remercier. J'ai donc appelé Mathilde Leclerc, journaliste au Ouest France, pour remercier Vincent et David d'avoir fait cette chanson. Un article est paru il y a environ 15 jours, suivi d'une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Et qui a actuellement plus de 15 000 vues, chose que je n'avais pas pensé. Je ne pensais pas qu'il y aurait un impact aussi important, puisque cette chanson, c'est vrai, elle s'intitule « Où es-tu ?». Et c'est vrai qu'elle est beaucoup pour mon frère, mais elle est aussi, c'est une chanson aussi pour tous les disparus. Elle parle, c'est une chanson qui parle à toutes les personnes qui ont perdu un membre de leur famille, qui ne retrouvent pas, comme moi. Et voilà, elle est touchante, c'est vrai. Et c'est vrai que cette chanson, c'est un appel pour dire à mon frère, si tu l'entends, reviens, si tu es encore vivant, je sais pas. Voilà, c'est difficile, je suis un peu émue. Hein.
Oui, je comprends que vous soyez émue. Votre frère a disparu dans quelles circonstances, Elisabeth ?
Alors, il va fêter son anniversaire. Vers le 24 janvier,
oui.
Chez un ami très proche de chez lui. Et à la suite de cela, on ne va pas s'apercevoir tout de suite qu'il a disparu pour la simple et bonne raison, c'est que mon frère pouvait très bien venir nous voir très souvent comme il était assez distant. Voilà, il était capable de venir deux, trois fois dans la semaine, comme il était capable de ne pas venir pendant un mois. Mais on avait toujours des nouvelles par d'autres personnes chez qui il se rendait. Sauf que là, ma maman s'en était inquiétée parce qu'elle trouvait bizarre que mon frère n'était pas venu lui fêter son anniversaire le 2 février 2021.
Mmh.
Et donc, à la suite de ça, on a cherché. Puis un jour, mon autre sœur s'est rendue au domicile de mon frère, puisque c'était la propriétaire de son logement. Et là, elle a ouvert la porte et elle a découvert que le sac à dos de mon frère, la carte d'identité, le portefeuille... Tout était resté là, sur la table, un dernier café avec une petite cuillère.
Oui.
La maison était très propre, très bien rangée. Pas de lettres, rien. Et par contre, il avait pris le temps de fermer la porte à clé. Les gendarmes ont fait beaucoup de recherches dans les bois autour de Saint-Jean-de-la-Motte, puisqu'il a disparu à Saint-Jean-de-la-Motte,
mmh.
et qui n'ont rien donné. Toutes les personnes ont été interrogées de son entourage, parce qu'il n'a pas pris son portable, était coupé depuis 2 mois.
Pourquoi était-il coupé depuis 2 mois ?
Parce que financièrement, il avait des petits soucis financiers.
Oui.
Et il n'avait pas renouvelé son abonnement. Moi, j'étais venue le 24 janvier pensant le trouver pour lui donner un portable avec un abonnement. Pour me dire, ouais, voilà, tu pourras toujours communiquer. Je ne l'ai pas trouvé ce jour-là. Et ce jour-là, il était justement chez son ami pour fêter son anniversaire. Et voilà, la disparition... des enquêteurs de la gendarmerie remonteraient entre le 24, c'est-à-dire la dernière semaine de janvier.
D'accord.
Depuis, plus rien. Des personnes ont interrogé, ils ont cherché, mais rien. Il n'y a rien. Rien du tout. Rien. Un néant total. total. Rien. Aucune trace, aucune piste. Pas de mouvement bancaire, rien, rien, rien. Rien. C'est difficile.
Oui, c'est difficile. Je doute. Rien, rien, en fait. Aucune trace, puisque la maison a été fermée, vous me dites ?
Oui.
Aucun mouvement donc de carte bancaire, aucune, on ne l'a aperçu nulle part. C'est comme s'il avait, il avait été aspiré, comme s'il s'était volatilisé, en fait. Souvent, en fait, oui. les familles de personnes qui disparaissent ont cette impression de l'être qui se volatilise complètement. Il y a aucun, personne ne l'a plus vu, personne n'a eu de signe de vie, et c'est souvent cette impression très désagréable, hein, pour vous, oui. Famille, d'un être qui se volatilise sans laisser le moindre détail, en fait.
Oui, c'est vrai, aucun détail. Aucun détail, c'est surprenant, parce que à la suite de cela, c'est vrai que je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup cherché à savoir pourquoi, et je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de personnes qui disparaissaient de cette façon. Beaucoup de personnes. Et qui ne laissaient aucune trace, ni bancaire, ni téléphonique, ni adresse, rien, rien, rien. Rien. Il n'y a vraiment rien. Les gendarmes ont enquêté, mais il n'y a vraiment rien. On va remonter vraiment à la semaine du 24 et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est le néant, c'est l'absence totale. Il n'y a plus rien. Ouais. Alors moi, je me dis comment vivent les personnes qui vivent la même chose que moi, que mon autre frère et ma famille. Comment font-elles ? Parce que c'est vraiment très douloureux. Très douloureux. On les aperçoit partout. J'ai expliqué au Ouest de France à Mathilde Leclerc que je suis allée à Étretat en vacances et j'ai vu quelqu'un de dos qui ressemblait énormément à mon frère.
Oui.
Et je me suis mis à sa hauteur. J'ai avancé plus vite. Et je me suis mis à la hauteur de la personne et je l'ai regardé. Je l'ai dépassé pour le regarder et c'était pas mon frère et je me suis écroulée. Donc, j'en ai conclu qu'on les voit partout. On cherche à les voir, on cherche à avoir une petite lueur. Je garde une lueur d'espoir. Je garde une lueur d'espoir à me dire je préférais le savoir vivant que décédé. C'est vrai, au fond.
Bien sûr.
Au fond. Mais de ne pas savoir, c'est terrible. C'est plein de questions. Et c'est pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Puisqu'il allait faire une exposition. Il était tailleur de pierre. Il allait faire une exposition en septembre. Donc, c'est vrai qu'à son domicile, il avait commencé à faire pas mal de tailles de pierre. Donc, je suis assez surprise. Et puis, mon frère n'était pas suicidaire. C'est ça qui me surprend aussi. C'était pas à notre connaissance. On ne connaissait pas notre frère suicidaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. On ne sait pas.
Il n'y a rien qui ait pu vous indiquer qu'il avait envie de passer à autre chose. Est-ce qu'il avait, à votre avis, besoin de faire un break ? Est-ce qu'il il s'en était ouvert à vous ou à des amis ? Parce que vous me dites qu'il traversait des problèmes financiers, donc peut-être par moments, ça doit être compliqué pour un jeune homme de ne pas pouvoir faire ce qu'il voulait, peut-être de passer à autre chose. Est-ce que vous pensez que ça peut être une envie de parenthèse, une envie de tout reprendre à zéro?
C'est probable. C'est probable, c'est possible. C'est possible. J'ai pas eu de cette impression qu'il avait envie de disparaître. Mmh. Si ce n'est, je dis bien, si c'est bien une disparition volontaire. Parce que le logement est scellé, il y a une disparition inquiétante. C'est peut-être pas une disparition volontaire aussi. C'est
alors,
peut-être,
vous évoquez, chose, vous évoquez Elisabeth, une disparition
oui.
inquiétante.
Oui.
Et c'est bien que nous évoquions cela ensemble pour toutes les autres familles.
Oui.
Parce que cette disparition inquiétante, elle a été prononcée à partir de quand, en fait ?
Elle a été prononcée à partir du 5 mars.
Du 5 mars, d'accord. Ça
oui.
veut dire que
c'est-à-dire
on a
presque
commencé,
2 mois après.
Voilà, on a commencé à chercher votre frère. 2 mois après.
Oui. Oui. Parce que mon frère était comme ça, je l'ai expliqué tout à l'heure au début de la conversation. Mon frère on pouvait le voir très souvent comme on ne pouvait pas le voir pendant 2 mois. On ne s'en inquiétait pas parce qu'il allait chez d'autres amis, voilà, on avait des nouvelles. Tiens, j'ai vu ton frère est passé, voilà. On savait. Ces amis que j'ai connus par rapport à tout ce qui s'est passé, là, par le biais de Messenger, de toutes les conversations, les réseaux sociaux, ils m'ont dit « ton frère, on le voyait souvent, il était toujours jovial, et mon frère était toujours jovial. Hein. » Voilà, c'était pas quelqu'un qui était triste, toujours avec son sac à dos, il aimait faire les randonnées dans les bois, il marchait beaucoup, c'est quelqu'un qui marchait beaucoup, oui. Qui pouvait aller d'un point à un autre en randonnée, traverser les bois, il connaissait les bois comme sa poche, hein. Ça c'est vrai que, voilà. Mais jamais quelqu'un qui était très, très secret, très discret. Il n'y avait pas de problème avec mon frère. Je lui connaissais aucun ennemi. Aucun. Et voilà, c'est très étrange, oui.
Oui, c'est très étrange. Ouais. Vous n'avez bien évidemment aucune hypothèse, vous, aujourd'hui. Est-ce que vous avez... Parce qu'on est souvent traversé par tout un tas de choses. Une question en entraînant 10 autres, parce que c'est l'enfer que malheureusement vous vivez. Lorsque quelqu'un disparaît, on est à se poser tout un tas de questions et refaire, projeter des scénarios tous différents les uns des autres. Vous n'avez pas, vous, échafaudé quelque chose qui tienne pour vous la route à vos yeux ?
Dans les hypothèses de sa disparition, si je me dis prendre le temps de fermer la porte, mais laisser tout, on pourrait, je dis bien si, hein, c'était supposition. Il aurait pu être possible qu'il soit parti avec une personne qu'il connaissait ou qu'il connaissait peu. C'est dans la supposition. L'hypothèse aussi qu'il soit parti maintenant avec le temps, on est quand même à 7 mois de disparition. L'hypothèse que maintenant sa disparition soit volontaire, peut-être, qu'il ait pu mettre fin à ses jours, j'y pense de plus en plus. Ce que je ne comprends pas, c'est que si c'était réellement ce qui s'était passé, on aurait retrouvé quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup de randonneurs autour de Saint-Jean-de-la-Motte. Il y a beaucoup, j'ai fait des randonnées par là-bas parce que j'ai voulu voir les trajets qu'ils faisaient, les parcours. Et il n'y a rien. J'ai rencontré d'autres randonneurs, je leur ai demandé, il n'y a rien. Donc voilà, c'est les hypothèses. Ma maman, elle dit autrement. Elle dit, crois-tu qu'il ne soit pas parti dans une secte ou quelque chose ? Voilà, on se raccroche à autre chose, je ne sais pas. Elle me dit peut-être qu'il reviendra, peut-être... Voilà, ça, c'est les hypothèses. Autrement, je vois pas... Voilà, je reste sur ça. Maintenant, ce ne sont que des si. Hein.
Oui.
Voilà, c'est... Comme la disparition est reconnue et n'est pas pénalisable en France, donc voilà.
Chaque personne a le droit à disparaître, c'est ce que vous voulez dire.
Oui. Oui, tout à fait. Ce n'est pas pénalisable. Une personne peut revenir. Et voilà, c'est au contraire. Je lui ouvrirai mes grands bras et lui dire oui, on t'attend.
Eh oui, bien évidemment.
Oui. Voilà, c'est pour ça qu'à travers cette chanson, je le redis encore, merci Vincent, merci David. C'est une chanson qui a été qui parle bien des disparus. Qui parle bien des disparus. Les visages qui sont tapissés sur les murs, on ne croyait pas qu'y voir un jour, c'est dur, ça explique bien que. On croit souvent que ça n'arrive qu'aux autres, mais c'est pas le cas. Et j'espère que les personnes qui écoutent cette chanson, qui un jour, ça leur passe par la tête de partir, qui prennent conscience que. Derrière, il y a beaucoup de conséquences dramatiques, familiales. Les amis, c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre. Après, c'est un choix, il faut le respecter. C'est ce que j'ai dit à ma maman. C'est son choix, il faut savoir le respecter. Mais c'est difficile. On aimerait juste savoir ce qu'il est devenu, quoi. C'est tout.
Ce soir, vous le savez, Elisabeth, si vous soupçonnez, ou en tout cas si l'hypothèse qu'il ait pris le large sans prévenir les uns et les autres est une hypothèse qui, pour vous, est une hypothèse qui tient, en fait, il vous écoute peut-être. Donc, vous pouvez peut-être lui parler, là.
Mais oui, je voudrais lui dire. Je ne vais pas l'appeler Pascal, je vais l'appeler Pickwick, parce que c'est son surnom qu'il a depuis qu'il était tout petit. Eh bien, Pickwick, si tu nous entends, on veut juste te dire... Excusez-moi.
Je vous en prie.
Tu avais le droit de partir. On aimerait juste savoir si tu es vivant. Savoir juste qu'il ne t'est rien arrivé. C'est tout. Et c'est ton choix, on le respecte. Et puis, de toute façon, on n'a pas le droit de juger, parce qu'un jour ou l'autre, nous, on aurait pu faire aussi ce que tu as fait. On t'en veut pas, la porte est toujours ouverte et on t'attend et on t'aime surtout. On t'aime.
Il faut savoir, Picoui, si vous nous écoutez, que lorsqu'on décide de disparaître, car comme Kat nous le dit au 739-21, chaque année, 10 000 personnes disparaissent en France. Mmh. Et Kat nous précise qu'il est difficile de croire que ce sont tous des disparus volontaires.
Oui.
Alors, il y a dans ces 10 000 personnes des gens qui vont prendre l'air pendant une semaine. Il y a tous ces jeunes aussi qui fuguent et qui sont retrouvés ou qui reviennent à la maison. Mais dans ces 10 000 personnes, il y a aussi des personnes qui décident de disparaître complètement pour tout un tas de raisons que nous n'allons pas égrener ce soir, parce qu'il y en a de multiples, toutes aussi personnelles et intimes les unes que les autres. Mais j'ai l'impression que lorsqu'on entreprend ce voyage-là, on ne pense pas à cette angoisse qui habite vos pensées, Elisabeth, et celle de votre mère, et finalement les esprits de tous ceux qui aiment votre frère, Picoui, et qui se posent tout un tas de questions. Et je pense que les personnes qui choisissent de disparaître volontairement comme ça n'évaluent pas combien c'est un véritable cauchemar pour les familles et ceux qui sont dans l'attente de la vérité, en fait.
Oui.
Cet été, je vous compte ce qui m'est arrivé cet été. Une relation professionnelle m'a appelé en me disant que la maman, alors c'était une maman qui était dans la même entreprise à France Télévisions que moi, dont le fils avait disparu. Et tout ce qu'elle me décrivait ressemblait vraiment à une disparition volontaire, voyez-vous. Il avait rendu le téléphone, il avait coupé le téléphone qu'il avait, il avait coupé son compte Facebook, il avait pris le soin de laisser la voiture de société garée à son bureau, puisqu'il était associé à l'un de ses frères. Il avait fait tout un tas de choses qui vraiment donnaient des indications sur sa volonté de disparaître. Mais il n'en est rien pour Picoui, si j'ai bien compris. Est-ce que pour vous, il y a des signes qui vous permettent de penser qu'il a choisi cette disparition ?
Oui.
Oui ?
Oui.
D'accord.
Oui, oui, oui.
Ce qui est plutôt rassurant, donc, quand même.
Oui, c'est rassurant, mais notre question, mon frère qui habite le sud, qui est mon frère Thierry, j'ai un frère qui habite aussi le sud de la France et qui le vit différemment que moi, parce que lui, il est très loin, donc c'est encore plus difficile à gérer, pense aussi la même chose que moi, que sa disparition, il y a des petits signes qui nous font dire que c'était un choix, c'était peut-être préparé même en amont. Parce que quand je suis allée au domicile de mon frère avant que ça soit scellé, il y a quelque chose qui m'a fait dire qu'il avait préparé son départ. Il y a quelque chose dans sa maison, dans son logement, qui m'a fait dire qu'il avait certainement préparé son départ. Ouais.
D'accord. Ouais. Vous ne voulez pas me parler de ce détail, donc ?
Si. Ma sœur qui est avec moi ce jour-là a dit la même chose. Elle l'a vu et... Il était sculpteur de pierre, il va donc laisser sur le buffet 4 statuettes.
Mmh.
Une grande statue.
Oui.
On a du mal à imaginer ce qu'il a voulu sculpter. Et 3 autres petites. Si on considère les membres de sa famille proche, ma maman,
oui.
la grande statue,
oui.
et les 3 autres, mon frère, ma sœur et moi. C'est, pour moi, c'est ce qui me dit que c'est peut-être une disparition volontaire.
Mmh.
C'est simplement ce que je pense. Hein. Après, et puis laisser aussi le sac à dos qu'il avait toujours avec le couteau de mon papa, mon papa était gardien de pêche, avait toujours un petit couteau que mon frère avait gardé. C'est quelque chose dont il ne se serait jamais, jamais séparé. Donc, c'est ces petits indices-là qui me font dire que c'est peut-être volontaire et préparé.
Mmh.
Préparé, oui.
Votre frère
s'en aperçoit.
Avait de bonnes relations avec vous, avec les membres de sa famille. Est-ce que, alors, on parle de bonnes relations, hein, c'est-à-dire pas de fâcherie, en fait, même si parfois c'est tendu, qu'on peut se prendre le bec. Il n'avait aucune raison de vous planter les uns et les autres comme ça.
Non, mais il était, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'était pas... C'est pas quelqu'un qui nous embêtait hein, dans la vie. C'est vrai qu'il ne demandait jamais rien. Même si on lui demandait « t'as besoin de quelque chose », il disait toujours non. Il n'aurait pas fait ça. Même ses amis proches, il n'aurait pas fait ça. Il avait... J'ai connu des amis chez qui il allait souvent, du côté de Serrefourt-Tourte, Peggy et Jean. D'ailleurs, s'ils écoutent ce soir, je les remercie d'avoir toujours été auprès de mon frère. Chez qui il allait beaucoup se ressourcer. Voilà, il aimait aller chez eux. Il se ressourçait là-bas. Il aimait aller au barbecue, passer des journées avec lui. Donc, non, je pense pas. Mon frère, il aimait trop, trop sa famille. Trop. J'ai moi-même un enfant handicapé, Andrea. Il aimait
oui.
ses neveux. J'ai appris par ses amis qui parlaient beaucoup de mon fils, quoi.
Mm-hmm.
Qu'il était en admiration d'Andrea, qu'il aimait ses neveux, ses nièces. Donc. Non,
Que disent ses amis de sa disparition? Est-ce qu'ils évoquent des fréquentations à un moment qui auraient pu le mener sur des sables mouvants? Est-ce que ces relations, parce qu'avec les copains, c'est jamais la même chose qu'avec la famille, voyez-vous, c'est on fait
oui, vous avez raison.
On fait d'autres choses.
Vous avez raison.
Est-ce qu'ils ont évoqué je ne sais pas, moi, une relation venue dernièrement qui était un peu douteuse ou...
Oui, je ne vous le cache pas.
Oui.
Certains de ses amis, pas tous. Alors, des amis qui se connaissent et d'autres qui ne se connaissent pas, mais vont me dire la même chose, vont me rapporter la même chose. Vont me dire qu'il n'avait pas toujours des fréquentations qui étaient très, très, très bien, quoi. Qu'eux n'avaient pas ressenti très, très positive et très malsaine, on va dire le mot malsaine.
D'accord.
Après, ils n'ont pas cité de nom, ils n'ont pas... Voilà, c'était... Voilà, ça, j'en sais pas plus. Ça a été très... très, comment dire... je ne trouve pas le mot.
Furtif, comme
oui, voilà,
comme
voilà.
Description.
Mmh. Mais je reste sur quand même des choses comme cela aussi, des suppositions, puisque ce sont des amis à mon frère qui ne se connaissaient pas et qui m'ont dit la même chose.
Mmh.
D'où l'interrogation de me dire encore, il a pris le temps de fermer la porte à clé, mais il est parti avec quelqu'un qu'il connaissait peut-être ou pas assez.
En tout cas,
ça me fait dire
il a pris le temps de fermer la porte de chez lui.
Ce
qui veut dire qu'il n'avait pas spécialement prévu de ne pas rentrer.
Ben, moi, je reste aussi sur cette idée. Sur cette idée. Oui.
Il y avait une petite amie, une femme dans sa vie.
On a découvert qu'il y avait quelqu'un qu'il avait rencontré début janvier. Alors là aussi, ça m'interpelle beaucoup parce que ça nous interpelle beaucoup parce que une personne va voir un jour va aller voir mon frère et va découvrir sur la table entrebâillée la porte entrebâillée un sac à main de couleur rouge que la gendarmerie va nous rapporter parce que ça on ne le savait pas et voilà la personne n'est pas rentrée, mon frère ne l'a pas fait rentrer. Et ce qui nous fait dire qu'il avait quelqu'un. Moi, ce qui m'interpelle maintenant, quand on découvre que c'est janvier, je me demande comment il a pu contacter cette personne pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'avait plus de téléphone depuis le mois d'octobre. Alors, où la personne n'était pas très loin des environs, cette jeune femme, ou cette femme, où elle habitait pas très loin, ou alors, j'ai demandé à ses amis, avez-vous prêté le téléphone à mon frère pour appeler cette personne? Vous voyez, ça m'interpellait. Je me suis dit, mon frère a plus de téléphone, comment il a pu joindre la fille? C'est la personne. Ça m'a vraiment interpellée. Ils m'ont dit, non, on n'a jamais prêté le téléphone à ton frère, on ne sait pas, on n'est pas au courant. Et voilà, j'en ai parlé aux gendarmes, je dis quand même, comment il a fait pour la joindre?
Il y a sûrement toute une... Vous savez, il y a tout le temps une possibilité de se faire prêter, même par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bon, on va marquer une pause et on prendra encore 5 minutes pour refaire la description de Picoui et faire un point sur l'enquête par rapport à sa disparition. Vous restez avec moi, Elisabeth, on se retrouve après l'info, d'accord ?
Pas de problème.
À tout de suite.
Merci.
Pour l'instant, nous sommes avec Elisabeth qui nous parle de la disparition de son frère, intervenu en janvier, et une disparition inquiétante prononcée en mars, soit 2 mois après. Tout d'abord, avant que nous reparlions de Picoui, où en est l'enquête, Elisabeth, actuellement? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a vraiment cherché votre frère?
Alors, je vais dire oui. Oui et non. Avec mon frère, mon autre frère, nous avons pris un avocat et nous demandons à rencontrer la procureure du Mans parce qu'on voudrait en savoir un peu plus. On voudrait savoir où en est vraiment l'enquête et on voudrait qu'ils amplifient des recherches. Voilà, c'est...
Vous allez vous épuiser à vouloir rencontrer la procureure, vous savez.
Parce que c'est pas grave. C'est le but. Ouais. C'est de savoir. Mm-hmm. C'est de savoir. Non, on veut rencontrer là.
Malheureusement, dans toutes ces histoires, vous savez, comme il y a peu d'indices, il y a souvent peu de moyens qui sont mis à disposition des gendarmes. Ce sont les gendarmes, si j'ai bien compris, pour chercher.
Oui, c'est la gendarmerie. Mm-hmm. De la Sarthe, oui. Oui, mais ce qu'on voudrait, quelque chose au départ qui n'a pas pu être fait parce qu'il y avait une enquête et on ne pouvait pas faire de battue. On a demandé à faire une battue autour de Saint-Jean-de-la-Motte, un peu plus en retrait des chemins qui l'empruntaient, des sentiers. Donc, on voudrait que ça soit fait maintenant parce qu'au début, c'était pas possible parce qu'il y avait l'enquête qui était en cours et il ne fallait pas déroger et c'était pas possible. On voudrait que maintenant on nous autorise à faire ça. Peut-être histoire de se rassurer, peut-être qu'on n'obtiendra rien, mais on a besoin. On a besoin de passer par ça et j'ai beaucoup de retours sur les réseaux sociaux de me dire pourquoi vous n'avez pas fait de battue. Alors j'ai expliqué les raisons.
J'allais vous poser la question justement. Est-ce que la région, là où il allait marcher, est-ce que cette région est accidentée? Est-ce que, pour faire référence à l'affaire du petit Lucas Tronche, vous savez, c'est ce garçon dont j'ai rencontré les parents et... qui avait été cherché, recherché, et finalement, on s'aperçoit qu'au bout du compte, c'est sans doute le résultat d'une chute, d'un trou, d'une crevasse, ou d'un ravin, en tout cas quelque chose que Lucas n'aurait pas vu. Est-ce que la région est accidentée du côté de chez votre frère?
Non, il n'est pas accidenté. La Sarthe, c'est très plat. Alors, autour de Saint-Jean-de-la-Motte, nous avons Luché-Pringé, Mareuil-sur-Loire... voilà, ces petits villages-là, Mareuil-sur-Loire, Luché-Pringé, j'en oublie un peu, Pringé. Donc, c'est pas accidenté, non. Mais on a aussi supposé que mon frère aurait pu faire un malaise, aussi. Mmh. Il aurait pu faire un malaise, et voilà, qu'on ne trouve pas. Et comme on a ce problème que quand il se rendait chez quelqu'un, les gendarmes l'expliquaient bien, quand mon frère se rendait chez quelqu'un, chez ses amis, quand il passait à travers bois, il n'empruntait pas les sentiers. Il coupait à travers.
Eh oui.
Donc la recherche a été d'autant plus difficile que ce n'était pas des sentiers pédestres qu'il empruntait. Voilà, c'est ça. Les gendarmes ont cherché avec des chiens et les chiens n'avaient aucune trace parce que déjà de janvier à mars, ils disaient qu'il y avait déjà 2 mois que c'était passé.
Oui.
Et c'est difficile. C'est difficile d'avoir... pour les chiens, c'était difficile de trouver un parcours. Voilà, bon, j'ai des personnes en retour qui me disent Saint-Jean-de-la-Motte, autour de Saint-Jean, il y a beaucoup de pluie. Ils m'ont parlé de pluie. Alors, oui, c'est pour ça qu'on voudrait, faire une battue, une grande battue, une grosse battue pour qu'on puisse. C'est vrai qu'on se fait du mal, c'est vrai, mais on a besoin de ça peut-être
bien
pour
sûr,
avancer,
bien
pour
sûr,
avancer, parce que ça n'a pas été fait. C'est la demande de beaucoup de gens qui m'ont dit on se porte, on sera présent le jour où vous le faites. N'oubliez pas de nous en informer, on sera là. Même des personnes que je ne connais pas, voilà, qui m'ont dit on sera prêt. Et pourquoi ça n'a pas été fait? J'ai expliqué à ces personnes, voilà, j'ai. Pas individuellement, mais je l'ai fait par message sur les réseaux sociaux en expliquant qu'on ne pouvait pas parce qu'il y avait l'enquête en cours et ce n'était pas possible. Maintenant, il y a 7 mois de passé, on voudrait qu'on soit autorisé parce que même pour faire une battue, c'est difficile parce qu'on doit passer sur des propriétés privées, voilà, on doit être accompagné. Administrativement, c'est très compliqué, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des règles à respecter et je tiens à les respecter. Je ne veux pas non plus que ça porte préjudice à quoi que ce soit.
En tout cas, on voit à travers votre témoignage ce soir combien il est compliqué, déjà avec le nombre de disparitions qui sont signalées en France chaque année, et surtout ces disparitions qui deviennent inquiétantes, donc quelques semaines, voire quelques mois après, combien le travail des enquêteurs peut être difficile et combien les moyens mis à disposition de ces enquêteurs ne sont pas toujours assez importants. Et on imagine à travers ça votre angoisse, Elisabeth. En tout cas, j'espère que le fait d'avoir témoigné ce soir vous aura fait du bien déjà, et peut-être que avec un peu de chance, on ne sait jamais, c'est une bouteille à la mer que vous avez lancée, si votre frère Picoui nous entend, ou si quelqu'un qui le connaît nous entend. Un signe, juste un signe, qui vous prouve qu'il est en vie, vous ferez le plus grand bien à vous, votre mère et aux vôtres. Merci en tout cas, Elisabeth, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, et courage à vous.
Merci de m'avoir donné la parole.
Je vous
merci
en prie.
Europe 1. Merci beaucoup.
Au revoir, Elisabeth.
Énormément. Au revoir.